Bonjour Marie Mandras.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur au CNRS CERI, c'est-à-dire Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po, et professeur à Sciences Po. Sciences Po Paris, m'en dit Sciences Po. Voilà. Vous êtes aussi, vous êtes une des meilleures spécialistes en France de la Russie et antérieurement de l'URSS. Et vous en suivez les rebondissements, l'histoire depuis de nombreuses années. Vous êtes aussi une chercheure, comme on dit, de terrain, c'est-à-dire que vous êtes allée sur place, vous avez participé à de nombreuses missions d'expertise et même de surveillance, comme on dit de monitoring, en particulier d'élections, aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Ça fait de vous, qui êtes par ailleurs une russophone éminente, j'ai vu que vous avez même enseigné au fameux GIMO, je suis pas russophone, pardon pour les prononciations, qui est l'Institut des Relations Internationales de Moscou. Puis vous avez eu aussi des fonctions dans les institutions françaises, en particulier au niveau des affaires étrangères. Alors, par ailleurs, vous êtes membre de la rédaction, du comité de rédaction de la revue Esprit, et vous signez un ouvrage qui est sorti très peu de temps après la disparition d'Andrei Navalny, La guerre permanente, je le montre à la caméra, la guerre permanente, ultime stratégie du Kremlin. Et vous nous dites, chez Kalmanovitch, j'ai dit, vous nous dites, page 21, que vous proposez une réflexion avec cet ouvrage sur la radicalisation guerrière du régime Poutine à travers l'analyse des conflits menés depuis 1999. Page 24, je vous cite encore, cet ouvrage étudie les ressorts, les calculs et les passions qui guident l'action de Poutine et ses hommes. Il pose la question des causes lointaines et immédiates de l'engrenage des guerres. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on est à la fois dans la synchronie mais dans la diachronie, c'est-à-dire que vous remontez dans le temps, au moins jusqu'à la période Gorbatchev, pour essayer de comprendre ce que la Russie et son dirigeant actuel ont vécu comme évolution depuis 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par cette phrase? Ça sera ma première question, que vous écrivez page 18. La thèse de ce livre tient en deux mots, tyrannie et guerre, deux termes qu'on va retrouver dans votre conclusion d'ailleurs.
Merci pour ce bref résumé de mon livre et de la thèse de ce livre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que mon travail de recherche et d'enseignement aussi, à la fois en Russie et en Ukraine, a toujours été axé à la fois sur l'analyse des sociétés et des régimes politiques, et aussi sur les politiques étrangères. Donc j'ai toujours considéré depuis le tout début, même déjà quand j'étais étudiante au Centre d'études russes de Harvard aux États-Unis, c'était encore l'époque soviétique, et j'ai eu la chance d'avoir quelques professeurs émigrés du RSS, notamment le grand sociologue Vladimir Schlappentor. Et grâce à cet enseignement venant de personnes qui avaient vécu toute leur vie en URSS, j'ai compris à quel point les politiques menées par Moscou dans le pays URSS et aujourd'hui Fédération de Russie se déterminaient par rapport à aux contraintes de politique intérieure et vice-versa, c'est-à-dire comment la politique intérieure dans tous les domaines, hein, économique, social, stratégique, sécuritaire, ne pouvait pas se comprendre si on ne connaissait pas les ressorts de la politique étrangère menée par les dirigeants à Moscou.
Alors,
Avec l'époque Poutine, on entre dans deux spirales qui s'entrecroisent en une seule spirale. C'est de plus en plus d'autoritarisme, de plus en plus de corruption, de plus en plus de violence politique, policière et militaire, et même de violence économique, avec justement la corruption, le rôle des oligarques qui sont aussi d'ailleurs à la tête de l'État. Donc une spirale aussi d'impunité, plus aucun garde-fou. Et l'autre spirale qui s'entrecroise avec la spirale de la nature du régime, eh bien c'est la spirale de la confrontation avec les pays étrangers. Cette sorte de désir irrésistible de prendre des revanches, de croiser le fer avec les anciennes républiques, de croiser le fer avec les pays occidentaux, que ce soit par des méthodes de subversion par une sorte de face-à-face, de confrontation sécuritaire, qui est la situation dans laquelle nous trouvons avec la guerre d'agression de l'Ukraine. Et ces deux mouvements se renforcent. Donc aujourd'hui, on est dans une accélération de la violence et du pouvoir que rien ne peut stopper.
Alors, au titre de l'évolution que vous décrivez minutieusement, on verra les différentes guerres qui ont précédé la guerre déclenchée le 24 février 22. Il y a la transformation aussi du personnage Poutine. Dans l'introduction, vous dites que Poutine avait la réputation, je vous cite, d'un homme qui limitait la prise de risque et restait fidèle aux instructions du KGB soviétique, n'engager un conflit politique ou militaire que si la victoire est certaine, ne pas sous-estimer l'adversaire, le connaître de l'intérieur, ne jamais s'exposer pour éviter d'être découvert et jugé irresponsable. Et puis, on a l'impression que le personnage s'est complètement transformé. Vous dites qu'il n'est ni un idéologue ni un conquérant, il est un déstabilisateur et un destructeur. Et il est sorti, dites-vous aussi, de la doctrine confortable de l'antiterrorisme pour appeler à l'anéantissement d'un pays nazifié, je vous cite précisément là, où la nation n'existe pas, mais qui serait une imposture soutenue par l'Occident satanique. On a l'impression que le personnage n'est plus du tout le même. Évidemment, entre le maître espion, enfin l'espion à Dresde avant 1989 et l'actuel. Je me trompe ou pas?
Ça fait 25 ans qu'il est au pouvoir. 25 ans. Donc, il est tout à fait naturel que ce petit lieutenant-colonel du KGB, qui arrive par hasard à la tête de l'État en 1999, on pourra y revenir si vous le voulez. Et ensuite, il fait face à quelques obstacles, mais il réussit à les dépasser. Et contre toute attente, il reste au pouvoir. Il est comme une sorte de rouleau compresseur. Il écrase toutes les institutions publiques. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de justice. Aujourd'hui, il n'y a plus de suffrage universel direct, puisqu'il n'y a plus d'élections dignes de ce nom. Il a écrasé les médias. Il a écrasé également les assemblées régionales et républicaines de la Fédération de Russie. N'oublions pas que la Russie est, sur le papier, c'est un État fédéral, oui, avec plus de 80 républiques et provinces. Donc, il a vraiment, ça a été un rouleau compresseur. Et plus il avançait dans cette consolidation du pouvoir par l'élimination de tout obstacle, alors, dans certains cas, c'était simplement transformer le Parlement en une chambre d'enregistrement, et donc en éliminant les partis politiques de toute course électorale. Et dans d'autres cas, c'était une élimination physique. Hein, quand on élimine des grands journalistes, des grands hommes politiques comme Boris Nemtsov ou récemment Alexei Navalny, on voit bien que c'était des actions qu'il ne pouvait pas entreprendre quand il est arrivé au pouvoir en 99-2000. Il y a un facteur qui est souvent sous-estimé dans cette épopée poutinienne. Il est arrivé dans des conditions difficiles, puisque Boris Yeltsin était malade, ce n'était plus lui qui décidait. Il était donc de plus en plus tenu dans un entourage. Il y avait aussi de plus en plus de corruption et d'enrichissement autour de lui. Donc, les services spéciaux, KGB et autres services de renseignement, ils s'appelaient déjà le FSB depuis l'époque Yeltsin, et l'armée, le commandant militaire, ont voulu profiter, au fond, de la confusion de la fin de règne Yeltsin pour prendre leur revanche contre les Tchétchènes, puisque la première guerre de Tchétchénie, commencée en décembre 1994, s'est terminée par un cessez-le-feu et un accord en août 1996, où l'armée russe acceptait sa défaite et retirait ses troupes après avoir détruit Grozny, tué des dizaines de milliers de Tchétchènes, civils et combattants, et de pousser une moitié de la population hors de la Tchétchénie. Et Poutine a été donc placé comme successeur de Yeltsin, d'abord Premier ministre, puis président au printemps 2000, à la condition qu'il engage une nouvelle guerre en Tchétchénie. Donc il fallait provoquer cette guerre. Donc c'est ça le péché originel du régime Poutine. Mais ensuite, cet homme a eu une chance inouïe. C'est qu'à partir de l'année 2000, donc vraiment quelques mois après qu'il ait pris ses fonctions au Kremlin en mai 2000, les prix du pétrole, du gaz naturel et de toutes les autres matières premières dont la Russie est bien pourvue, ont commencé à augmenter et n'ont jamais cessé d'augmenter jusqu'à l'été 2008. Donc, 8 années de manne pétrolière, gazière, bauxite, or, nickel, etc. Donc, cet homme et ceux qui gouvernaient avec lui et ceux qui administraient avec lui, là je pense plutôt aux organes de renseignement et aux administrations, ont pu ne pas s'engager dans des réformes. Et avec la manne, cet argent qui était toujours plus important chaque année, qui tombait donc dans les caisses de l'État et dans leurs poches, eh bien, ils ont pu non seulement ne pas réformer, détruire ce qui commençait à être construit comme État de droit et comme fédération, produire de la croissance, de la richesse, qui a fait que, d'une part, la très grande majorité des habitants de la Fédération de Russie ont vécu mieux, donc ils ont profité de ce que j'appelle les huit glorieuses 2000-2008. Et d'un autre côté, Poutine a pu construire une clientèle d'affidés, parce qu'il pouvait faire des cadeaux, et puis ensuite, voilà, il n'y avait jamais d'appel d'offres, donc si tel chef d'entreprise était gentil, ben on lui donnait des très gros contrats, il y avait beaucoup de commissions, donc il a bâti son pouvoir à la fois sur la guerre de Tchétchénie, sur les services spéciaux et l'armée, et sur l'argent. Et en plus, il a obtenu un soutien et un désir de bonnes relations de toutes les démocraties occidentales,
pratiquement,
à l'exception des Baltes, des Polonais.
Alors c'est là que l'on voit, j'allais dire, toute la complexité du propos que vous teniez d'ailleurs au début de notre entretien. Là aussi, où la politique intérieure va s'entremêler avec les relations internationales, c'est que vous disiez, il a eu beaucoup de chance à partir de... Puisque Yeltsin quitte le pouvoir le 31 décembre 1999, enfin, le 1er janvier 2000. Le 11 septembre 2001, c'est les tours du World Trade Center. Et un des arguments de Poutine, c'est de dire qu'il traque les terroristes musulmans. Et en particulier, la fameuse expression « Nous poursuivrons les Tchétchènes jusque dans les chiottes », ça c'est cette fameuse expression, parce qu'il est très vulgaire dans son propos, on a compris. C'est ce qui fait que ce combat, j'allais dire global, contre le terrorisme international, représenté par tout ce qui est de près ou de loin musulman, bah, c'est une façon de se... non pas de se rapprocher des États-Unis, mais de au moins de monnayer une espèce de gentleman agreement, très clairement, avec l'Occident.
Ça a été surtout une belle ruse pour obtenir du président nouvellement élu, George Bush. D'obtenir de Bush une sorte de bénédiction pour la terrible guerre qu'il menait contre les Tchétchènes depuis septembre 99, donc depuis déjà 2 ans. On connaît ce coup de fil, hein. Juste après donc la destruction des deux tours à Manhattan par 2 avions de terroristes, il semble que Poutine ait été le premier dirigeant étranger à joindre Bush. Et Bush lui aurait répondu « Ah, maintenant, Vladimir, je comprends ce que tu fais en Tchétchénie. » Et la version poutinienne qui était « Nous sommes obligés de relancer cette opération spéciale », on parle jamais de guerre, « opération spéciale en Tchétchénie, car c'est un repère de terroristes, il n'y a plus que des terroristes islamistes en Tchétchénie. » C'est-à-dire que même un jeune ou même une jeune femme civile en Tchétchénie pouvait être traitée comme un terroriste, c'est-à-dire tuée.
Alors, vous dites qu'il y a eu 5 guerres poutiniennes. La première est la guerre de Tchétchénie. Et après, ça s'enchaîne avec la Géorgie. Là, nous sommes en 2008. Alors là, d'ailleurs, ça va impliquer assez directement la France, parce que le président Sarkozy est en première ligne, puisque la France est présidente du Conseil européen pendant les 6 mois où les événements ont lieu. Hein. Et puis après, il y a cette intervention en Syrie qui tient, alors là encore, tout autant à une sorte de retrait, j'allais dire, obamien, en tous les cas occidental. Hein, et après, on arrive à la Crimée et finalement, donc, à l'Ukraine. On reste sur la politique intérieure, parce que ça, c'est vraiment d'une actualité. Je disais au tout début de notre échange que votre livre est sorti quelques jours avant l'élimination, l'assassinat d'Andriy Navalny. Vous citez un certain nombre de leaders de l'opposition qui ont été tués. Hein. La première que vous citez, bien sûr, c'est Anna Politkovskaya, qui est la plus connue des journalistes. On parlait de guerre de Tchétchénie, elle a été vraiment...
Je connaissais Anna très bien.
Alors, ce qui n'est pas dit dans ce que vous, ce que, je crois de pas l'avoir lu dans votre livre, mais il faut rappeler qu'elle a été assassinée le 7 octobre 2006 à l'entrée de son immeuble. Et le 7 octobre, vous le confirmerez peut-être, c'est pas n'importe quelle date, c'est la date anniversaire de Poutine. C'était vraiment un cadeau d'anniversaire de tuer Anna Politkovskaya, je crois. On peut l'interpréter comme
si,
ça.
Si je peux ajouter que le 7 octobre dernier, le jour des attentats terroristes du Hamas contre des Israéliens, bien entendu, beaucoup d'observateurs et beaucoup de Russes de la résistance anti-Poutine y ont vu un signe.
Ah oui.
Et il y a peut-être quelque chose là, parce que le lendemain, un des dirigeants du Hamas qui était à Moscou a pris la parole, donc dès le 8 octobre 2023, a pris la parole à la télévision publique russe pour, vendre leur opération contre Israël. D'accord. Sans aucune contradiction. Et pire, environ une semaine plus tard, Poutine a reçu une délégation du Hamas.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà, je trouve que c'est important. Je mentionne cette tragédie qui continue aujourd'hui dans mon livre. Oui. Je peux que le mentionner parce que le manuscrit était déjà en fin de préparation. Je le mentionne parce que cette tragédie confirme toute ma recherche et toute mon analyse de la barbarie jusqu'au bout. C'est-à-dire l'absence de limites et surtout ce qui s'est passé depuis quelques années pour Poutine et ses hommes, plus aucune raison de protéger encore les apparences.
C'est ça. Alors,
ils assument la dictature, ils assument la violence, ils assument de tuer, ils assument d'écraser, ils assument de soutenir des organisations terroristes. Et c'est en sens que, comme vous le disiez au début, cet homme qui au début avait un peu peur de son ombre et ne voulait pas prendre de risques directement, il s'est mis à prendre des risques et il faudra peut-être que nous discutions aussi pourquoi, depuis 2 ans, il s'est exposé à ce point-là.
Exactement,
parce qu'aujourd'hui,
il
est totalement exposé dans la guerre d'agression contre l'Ukraine.
Alors ça, c'est, vous, dites, vous employez même le terme d'énigme. Hein. Vous dites c'est une énigme qu'il faut résoudre pourquoi il fait ça. Mais je reviens à l'opposition intérieure. Donc vous citez évidemment... Boris Nemtsov, qui était considéré, d'ailleurs, il était vice-premier ministre, il était considéré comme un des dauphins potentiels de Yeltsin en 97-98. Hein, bon. Il était gouverneur d'une des républiques de Russie. Hein,
Alors, moi je peux vous dire, j'ai bien connu Boris Nemtsov. La première fois que je l'ai rencontré, c'était une mission dans la région de Nijni Novgorod.
C'est ça.
En 93, et donc Nemtsov était tout jeune, il m'a invité à venir dans le studio de télévision à Nijni Novgorod, où il faisait régulièrement une émission pour expliquer ce qu'il faisait en tant que gouverneur de la région. Et sa fille Jeanna, que je connais bien et qui est certainement une résistante au régime aussi, Jeanna Nemtsov, a été toute petite. Et ensuite, alors il faut dire aussi avant ça que c'était un jeune physicien brillant et qu'il avait eu le courage d'aller rencontrer
Sakharov.
André Sakharov et Elena Bonner, qui étaient
les grands dissidents en résidence surveillée.
En résidence surveillée à Nijni Novgorod, qui à l'époque s'appelait Gorki,
bien sûr.
Encore. Ouais. Il avait eu le courage. On a des photos du tout jeune Nemtsov avec eux. Et ensuite, Nemtsov a été appelé à Moscou pour devenir vice-premier ministre du gouvernement Yeltsin.
Alors, sur ses opposants, page 276, c'est dans votre conclusion, vous dites, cette Russie-là, celle des opposants, elle fait peur à Poutine, probablement plus que l'Ukraine ou l'OTAN. C'est pas un peu irénique, j'ose pas dire ça, mais c'est pas...
C'est très réel.
D'accord.
Je persiste et signe.
Oui.
Mais je vais expliquer cette formule.
Oui.
Premièrement, pourquoi fallait-il tuer Anna Politkovskaya en 2006 ? Elle avait publié tous ses articles, tout ce qu'elle disait. Elle publiait tout. Elle publiait toutes les photos. Tout était public. Et une fois qu'elle était plus là, les reportages ont continué, les photos aussi. Ils avaient déjà tué 2 ou 3 journalistes de Novaya Gazeta en 2006. Et il a fait quand même d'Anna Politkovskaya une grande héroïne. Et c'est son assassinat qui a commencé à ouvrir les yeux de nos gouvernants et de nos journalistes en Europe. Pourquoi tuer Boris Nemtsov ? Alors qu'il aurait pu effectivement arriver à de hautes fonctions à la fin des années 90, il avait dû se limiter à se faire élire au conseil municipal de Yaroslav, donc une ville de province, ou peut-être le conseil de la région de Yaroslav. J'ai un petit doute. Parce qu'il était interdit, son mouvement politique était interdit dans les années, au début des années 2010. Il n'avait pas le droit de se présenter à la Douma d'État. Donc la l'Assemblée fédérale. Donc, il n'était déjà plus vu par la majorité des habitants de Russie comme un grand homme d'État. Il n'avait plus accès à aucune télévision, mais il continuait à parler, il continuait à voyager à l'étranger. Il a beaucoup poussé pour la liste Magnitsky qui a été votée par les États-Unis et d'autres pays. C'est un avocat qui a été éliminé en prison en 2009. Il n'a cessé de continuer à exposer, dévoiler, un peu comme a fait Navalny aussi, par des rapports sur la corruption, sur les violences et sur les guerres. Pourquoi est-ce que Nemtsov a été assassiné devant le Kremlin le 27 février 2015, donc un an après l'annexion de la Crimée et le début de l'occupation de l'Est du Donbass par des Russes qui disaient ne pas être des Russes? Pourquoi? Parce que 36 heures plus tard, le 1er mars, qui était un dimanche, Nemtsov et toutes ses équipes avaient annoncé une grande manifestation avec pour slogan contre la guerre, donc en Ukraine, contre la guerre pour des réformes. Et il expliquait si la dictature s'installait, ne faisait plus aucune réforme, devenait une mafia corrompue, c'est pour ça qu'elle pouvait envoyer des hommes faire la guerre en Ukraine. Et que plus on les laissait faire la guerre sans assumer la responsabilité de faire la guerre, plus la dictature allait devenir encore plus brutale, etc. Il avait parfaitement compris cela, et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Enfin, Alexeï Navalny, il avait déjà subi une terrible tentative d'empoisonnement en 2020. Il était depuis plus de 3 ans incarcéré dans des conditions inhumaines. Il avait d'énormes problèmes de santé. Il était souvent mis au cachot. Et dans le Grand Nord, le cachot, c'était une façon de le tuer à petit feu. Eh bien, à cause du fait que Navalny et toute son équipe et des millions de Russes qui continuent à suivre les sites Navalny, comme Navalny Live, que vous pouvez trouver sur Internet sans aucun problème. Et parce qu'il voulait ce plébiscite fabriqué des 15-17 mars dernier, il l'a fait éliminer en camp. Ils n'ont jamais voulu dire la cause de la mort. Ils l'ont fait éliminer, c'est-à-dire que ce régime ne supportait même pas que cet homme affaibli qu'ils avaient condamné pour de très longues années, qu'il respire encore. Et c'est en ce sens que quand la dictature fait sa propagande en disant « l'OTAN essaye de nous envahir depuis 20 ans », on sait très bien que c'est un mensonge. Ils n'y croient pas une seconde. Ils savent parfaitement, mais ils ont construit cette menace fantasmagorique qu'ils appellent maintenant la menace de l'Occident satanique. Oui. Les termes montrent à quel point ils sont partis dans des fantasmes. Et il faut éviter, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, il faut qu'on évite de rationaliser les actions de Vladimir Poutine. Il ne va pas conquérir et occuper et gouverner toute l'Ukraine. Il ne va pas faire ça non plus en Moldavie. Il ne va certainement pas s'attaquer à des pays membres de l'OTAN parce que, tout simplement, il n'en est pas capable, son armée n'en est pas capable. Et dernière analyse importante, c'est le fonctionnement du clan dirigeant. Il ne peut pas tout faire tout seul. Il ne cesse de brandir la menace nucléaire. Mais Vladimir Poutine n'a pas un petit bouton rouge sur son bouton ou à côté de son lit qui suffirait de presser sur ce bouton rouge pour qu'une bombe ou un missile atteigne l'Ukraine ou la Pologne. C'est forcément une décision prise à plusieurs personnes et notamment avec des commandants militaires. Pourquoi ces commandants militaires voudraient-ils se suicider ? parce que on appelait ça pendant toute la période de la guerre froide la destruction mutuelle assurée. Et c'est ce qu'on appelait aussi l'équilibre de la terreur.
Alors,
L'OTAN est tellement... L'OTAN est militairement beaucoup plus fort que la Russie. Tous les pays de l'OTAN réunis.
En vous écoutant, Marie, j'entends bien quand vous dites il faut cesser, peut-être, ou il faut s'efforcer de ne pas rationaliser le comportement de Poutine. Et vous dites d'ailleurs qu'il y a une succession d'erreurs chronique de la part de l'équipe dirigeante et de Poutine. Page 17, c'est toujours l'introduction, vous dites « Le Kremlin s'est trompé sur la lâche retenue des Européens. La croyance dans un pacifisme structurel des démocraties en toutes circonstances résulte d'une méconnaissance des sociétés européennes, de leur histoire, de leur expérience des guerres du XXe siècle. » Et vous dites « Cette erreur de jugement de Poutine tient au système de désinformation et de déformation des réalités dans lesquelles les dirigeants ont fini par se piéger eux-mêmes. » Donc on a presque le sentiment que eux qui manient le Novatchok et le poison constamment pour éliminer ce qui leur déplaise, on se souvient de cette transfuge du KGB empoisonné au polonium ou de ces Russes là aussi empoisonnés au Novatchok en Grande-Bretagne. On a l'impression qu'ils se sont inoculés une sorte de poison. C'est ce que vous voulez dire vous-même, eux-mêmes
Oui, enfin, c'est assez classique. Un système autoritaire qui ne respecte plus rien, qui a plus de garde-fous, qui a plus de limites, qui a de plus en plus peur, qui est de plus en plus enfermé dans sa forteresse, il veut désinformer tout le monde et il a besoin du mensonge. Il a besoin du mensonge, il a besoin de la menace, il a besoin de diaboliser les ennemis, il a besoin de tout ça. Mais lui-même finit par désinformer, puisque d'abord il refuse toute information critique. Je peux vous assurer que Poutine n'écoute pas nos radios et ne lit pas nos analyses. Donc, ils vivent dans un monde qu'ils construisent eux-mêmes. Et ils se prennent forcément les pieds dans leur désinformation. Donc c'est à la fois, d'un côté, une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'erreurs. Et certainement, la dernière grande erreur que Poutine a faite, c'est de lancer cette guerre d'agression contre l'Ukraine, puisque deux semaines après l'agression, il était clair qu'il n'y arriverait pas à prendre le pouvoir à Kiev et conquérir l'Ukraine, si tel était véritablement le but au départ. Et on a bien vu ensuite qu'il y avait une méconnaissance au Kremlin et probablement aussi chez les commandants militaires de la situation économique politique en Ukraine qui était relativement bonne et une méconnaissance de à quel point cette nation, cette population s'était soudée depuis le début de l'occupation du Donbass 8 ans plus tôt, et aussi que l'armée ukrainienne, après l'occupation du Donbass à l'été 2014, cette armée ukrainienne, elle s'est organisée, elle s'est préparée. Nous les avons aidés. Et donc, leur capacité de défense et d'attaque aussi était incomparable par rapport à 2014. Et il semblait que cela n'ait pas été pris en compte. Je peux ajouter un autre élément d'information, moi, qui m'avait beaucoup frappé pendant mes missions en Ukraine en 2014 et 2015.
En particulier, quand vous êtes allé pour la révolution Euromaïdan.
Voilà. J'ai passé une semaine en décembre 2013 pour observer la révolution Euromaïdan. Et c'est là que j'ai compris que c'était un tournant historique et que, alors que beaucoup de personnes en France prenaient pas ça encore très au sérieux. Ensuite, il y a eu donc des élections en mai 2014. Le président Petro Porochenko a été élu dans une élection libre et honnête. Et j'étais observatrice à Odessa. Puis ensuite, il y a eu les législatives à l'automne 2014. Et là, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et j'ai compris que c'était organisé des comités locaux. Non seulement beaucoup d'Ukrainiens s'étaient engagés en politique pour devenir conseillers municipaux, mais aussi chaque petite ville, comme grande ville, arrondissement, avait formé son comité civil d'autodéfense. Et ces comités sont extrêmement importants depuis février 2022. Et je suis convaincue que ce n'était pas pris en compte comme un acteur essentiel de la résistance ukrainienne au sein de l'état-major russe.
Alors vous dites clairement que Poutine ne peut pas gagner cette guerre, d'une certaine façon, plus ça va, plus il est à la fois tenté d'être tyrannique, mais de plus en plus fragile, avec cette belle formule ramassée que j'ai notée, page 277, la tyrannie appelle la violence appelle la guerre, et la guerre éprouve la tyrannie. Est-ce que vous diriez que avec cette invasion de l'Ukraine, donc en février 22, Poutine a quelque part signé sa mort politique? Vous iriez jusqu'à dire ça?
Le terme de mort politique n'est pas bon. Parce que dans une dictature, il n'y a pas de politique.
D'accord.
C'est la résistance qui fait de la politique. Et d'ailleurs, je n'appelle plus les opposants des opposants, mais des résistants. Maintenant que la Russie oblige sa population à être en guerre, en économie de guerre, et à faire la guerre, il y a quand même, c'est absolument monstrueux le nombre de soldats et de mercenaires russes qui sont morts ou qui ont été blessés en Ukraine. Donc oui, les résistants et la résistance, je dirais, qui n'est pas active, visible, mais la résistance à l'intérieur de la Fédération de Russie et dans la diaspora, dans nos pays, qui est une diaspora très nombreuse aussi, ça fait des millions et des millions et des millions de personnes. Donc eux, oui, ils font de la politique, ils veulent le changement, ils veulent la fin de la guerre et la fin de la dictature. Mais au sein du Kremlin, il n'y a plus de politique. On l'a bien vu avec le plébiscite fabriqué de la mi-mars. Je pense que si on tente d'analyser ces obsessions et ces peurs de Poutine, et maintenant des hommes qui font partie du noyau dur, mais ce sont des peurs de la mort, mais de la mort physique. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés entraîner dans une spirale dont ils risquent de ne pas sortir vivants.
Oui, vous dites la guerre l'emportera. La guerre l'emportera, vous dites.
Tout dépend de ce qu'on appelle la guerre. Et c'est justement pour ça que mon livre s'appelle « La guerre permanente ». C'est que c'est une guerre à la fois à l'intérieur de la Russie, c'est une guerre à l'extérieur, c'est une guerre contre des opposants, des résistants, mais c'est aussi une guerre contre le simple russe, puisqu'on vient de finir par lui retirer son droit de vote, maintenant. Le dernier droit auquel tout le monde s'accrochait, qui était quand même la possibilité d'aller encore voter, de fait, c'est terminé. C'était une mascarade totale, et en plus, un plébiscite organisé sur des bases illégales, puisqu'ils ont fait voter des millions de gens dans des territoires qui ne sont pas la Fédération de Russie, du point de vue du droit international. Dans quatre régions occupées militairement en Ukraine, plus la Crimée, qu'ils ont illégalement annexée, plus la Transnistrie, république séparatiste quasiment russe en Moldavie. Donc on est dans un... donc je pense que maintenant, si on accepte de mettre de côté le mauvais théâtre d'acclamation de Poutine par des gens qui ne sont plus des électeurs, ou d'acclamation en réunissant, en les mettant dans des bus, des milliers de gens pour les entraîner sur une place ou dans un stade, on peut commencer à réfléchir à la très grande inquiétude que vivent très probablement la majorité des habitants de la Fédération de Russie. Et donc dire qu'ils aiment Poutine, qu'ils adhèrent au régime et qu'ils ne sont pas contre la guerre, ça veut strictement rien dire. D'abord, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. S'ils disent que c'est une guerre, ils risquent d'être emprisonnés. Et ils savent très bien, si on leur demande de répondre, ils savent très bien ce qu'il faut répondre pour ne pas avoir d'ennui. Donc on n'est pas dans une société politique qui peut adhérer. C'est un ensemble d'individus, de familles, qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et ce sont seulement ceux qui sont un peu plus riches, qui ont les moyens de partir, ceux qui sont un peu plus riches, qui peuvent continuer à s'enrichir, parce qu'il faut voir qu'il y a des profiteurs de guerre aussi en Russie. Donc c'est une société de plus en plus fragmentée.
Et c'est parce qu'on va terminer là-dessus. C'est parce que votre expérience de chercheur et, j'allais dire, de praticienne de terrain vous fait très bien connaître la société russe, j'allais dire, dans ses différentes sensibilités en profondeur, que vous terminez, c'est la page, les derniers mots de votre livre, vous vous situez, j'allais dire, peut-être déjà dans le coup d'après. Vous dites, l'Europe devra engager alors sa responsabilité et tous les moyens possibles pour assurer la sortie de la dictature, la sécurité des personnes et la victoire du droit, dans la perspective d'une défaite de Poutine. Vous êtes déjà dans la nécessité de reconstruire des liens avec cette société-là.
Tout à fait, et c'est ce que j'essaye de dire, ce que j'ai beaucoup essayé de dire aux Ukrainiens dès la première année de guerre, donc en 2022. C'était pas très bien reçu au départ, et après, ils ont compris. Et je leur ai raconté notre expérience, la réconciliation franco-allemande. Ouais. Et là, ils m'ont écouté. Et d'autant plus que j'avais une position depuis le début très claire, que je maintiens aujourd'hui. C'est qu'il ne pourra y avoir de sécurité pour les Russes, pour les Ukrainiens et pour nous tous en Europe qu'une fois que sera actée la défaite militaire et aussi la défaite politique, c'est-à-dire la défaite de l'État poutinien. Ce qui s'est passé à peu près en 1945 contre les pays de l'Axe. Et que, puisque c'était la seule issue véritablement acceptable pour, je dirais, des centaines de millions de personnes, si on prend toute l'Europe au sens large, et puis tous les voisins de l'Europe, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une négociation où le régime de Poutine continue à martyriser une partie de l'Ukraine, une partie de la tenir le contrôle de. Donc, c'est dès aujourd'hui, même déjà hier et avant-hier, qu'il faut penser à cette période de transition. Parce que quand la défaite sera actée, nous aurons de nouveaux interlocuteurs à Moscou et dans les républiques et provinces de la Fédération de Russie. Et nous devrons les aider à installer des institutions transitoires. Pour les Ukrainiens, et je les ai convaincus, pour les Ukrainiens, c'est l'assurance d'avoir enfin un voisin qui ne soit pas un grand empêcheur et qui, au contraire, leur assure d'avoir de bonnes relations bilatérales et multilatérales sur notre continent.
Alors, je remontre à la caméra votre livre, Marie Mandras, La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin. Puis, écrit ici, en plus petit, il y a le nom de la collection. Je trouve que ça convient fort bien à votre texte. Liberté de l'esprit, prestigieuse collection fondée par Raymond Aron en 1947. Et ça reprend, en quelque sorte, les derniers propos que vous venez de tenir sur la période à partir de 1945. Merci beaucoup, Marie Mandras. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.